Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette avant-dernière émission d'Esprit Sport. Et oui, déjà, ça va être presque déjà l'heure de se quitter et de faire les bilans pour mieux se retrouver. Mais avant ça, on va repasser une nouvelle heure aujourd'hui avec une équipe complète aujourd'hui. Il est le bon élève qui est au fond de la classe, qui fait pas de bruit mais qui travaille. Bienvenue Julien.
Ben merci, merci Jonathan. Bonjour à tous et à toutes.
Est-ce que vous étiez ce genre d'élève à l'école?
Un petit peu.
Comme quoi, ça reflète encore tout travail ici.
Exactement.
Comme quoi. La maestro aux manettes de l'émission chaque semaine, malgré que Pau ait échoué aux portes des phases finales. Bienvenue Coraline.
Mais c'est très gentil de remuer le couteau dans la plaie. Bonsoir.
Moi j'aime bien.
Oui, bon, moi j'aime pas.
Avec votre casquette verte. Comme quoi, hein, le vert vous colle à la peau.
Exactement. Non, c'est une autre licence, là, pour le coup. Vous n'avez pas reconnu?
Si, c'est Milwaukee à NBA.
Pas du tout.
Bah si, c'est un cerf.
C'est pas Jägermeister, en vrai?
Non, c'est Harry Potter.
C'est Harry Potter.
Je savais pas qu'on faisait une émission ciné. Enfin, on en a fait, mais pas là, je pensais pas. Yes. Bon, ben voilà, elle est là. Merci, Colin.
Je suis là.
touche à tout, chroniqueuse de passage, mais passionnée à temps plein. Autant pour le foot, le rugby, le basket, l'équitation, la natation, un véritable couteau suisse, mais pas vraiment neutre. Bienvenue Anne-Françoise.
Merci Jonathan, salut.
C'est l'euro, en plus on parle le suisse, c'est plutôt pas mal, vous allez voir.
Tout est pensé, hein, c'est incroyable.
Mais tout est réfléchi. Il est de retour parce qu'il fait beau, et non pas pour nous jouer un mauvais tour, mais pour terminer cette année. Bienvenue Corentin.
Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous.
Vous, c'est l'élève passage au fond de la classe avec le radiateur, quoi. C'est vraiment,
c'est l'élève qui est parti en stage d'observation, en réorientation, mais qui revient parce qu'on l'a pas accepté.
Voilà. Bah du coup, vous revenez ici, hein? C'est bien. Vous avez vu la lumière?
Je reviens. On est bien chez Esprit Sport, on est bien.
Merci. Et puis, comment le présenter, l'homme aux multiples casquettes, étonnant et modeste sur sa capacité à s'adapter à tous les sports qu'il pratique. Bienvenue, Juan.
Merci pour cette présentation. Bonjour.
Oui, alors on a vu que les parpaings, ça vous connaît, au rugby.
Voilà, plus que les raquettes de ping-pong.
Plus que les raquettes. Et puis le bowling, finalement, vous vous êtes trouvé une passion la semaine dernière.
Oui, une passion, le temps d'une partie.
Ben voilà, c'est ça. On va un petit peu dévoiler les coulisses. On a fait un bowling avec Corentin, Coraline et Erwan la semaine dernière. Et alors, Erwan nous a dit, on est nul, je suis nul. Puis il a battu presque tout le monde lors d'une partie.
Presque, même... deuxième, oui.
Deuxième sur quatre.
Deux personnes, j'étais
battu
par
de l'équipe.
Bah c'est un peu ça. C'est... Ouais, poupou, mais que sur une édition quand même. Après, il est passé à trappe. Puis on a vu que Coraline maîtrisait aussi le parpaing sur le bowling.
Exactement.
D'ailleurs, on a reçu la facture, hein, pour la piste.
Pour le parquet.
Le parquet gondole un peu là.
Les gens du restaurant en dessous un peu de plâtre dans leur assiette.
C'est ça. C'est... Oui, Coraline, peut-être que le rugby, ça pourrait vous aller. Du coup, vu les parpaings que vous balancez avec les boules de bowling.
Ah, je suis du sud-ouest, voilà.
Oui, c'est vrai. Voilà, l'équipe est au complet aujourd'hui. On va faire un petit tour des performances sportives, bonnes ou mauvaises, de la semaine dernière. À suivre un entretien, le dernier entretien olympique en face à face avec Sophie Raffi, élue à la Fédération française de hockey et membre de la commission mixité du CNOSF. Elle nous parlera de son rôle, mais aussi de son sport olympique, le hockey sur gazon. L'équipe du jour s'est posé une question. Avec le début de l'Euro et les performances de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Espagne, les Bleus sont-ils favoris pour la victoire finale? Mais aussi, un petit passage d'Erwan sur la liste de la tournée d'été du 15 de France.
Oui.
Voilà, avec des choses à dire. Vous allez voir, on va aussi pronostiquer un match à la fin de cette émission, mais on commence d'abord par l'actualité sportive en région avec Corinne Saint-Félix. C'est tout de suite.
L'info sport avec Corinne Saint-Félix.
Une page sport qui aujourd'hui peut se résumer à de l'eau et du vélo, avec pour commencer la sélection en canoë-kayak de Boris Neveu pour les JO de Paris 2024.
Troisième du tournoi de qualification olympique à Prague dimanche dernier, le Bagnerais avait alors permis à l'équipe de France de décrocher un quota supplémentaire pour les JO de Paris, une réussite qui dépendait encore de la décision du Comité national olympique et sportif français. La nouvelle est tombée vendredi avec l'officialisation de sa sélection. Boris Neveu va donc participer à sa deuxième Olympiade sur la nouvelle épreuve de kayak cross. Parmi les autres sélectionnés, Marjorie Delassue pour le club Pau Canoë Kayak Club qui participera au canoë slalom dames.
Léon Marchand dans le bassin à Chartres avant les qualifications pour les JO.
Les dauphins du TOEC ont préparé les championnats de France de natation à Toulouse. Ils se déroulent jusqu'au 21 juin à Chartres. Le groupe élite a été rejoint par Léon Marchand, rentré des États-Unis pour préparer cette échéance qualificative pour les Jeux Olympiques. L'enjeu est de taille. Les nageurs français devront réaliser les minima pour se qualifier pour les JO de Paris 2024. 600 nageurs sont déjà sur les plongeoires.
La Tarbaise, Lily Simeon Knabel, sélectionnée pour participer au prochain championnat du monde en Australie.
Les athlètes de l'Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation ont démontré leur talent et leur détermination en obtenant d'excellents résultats en mai dernier au championnat de French Rescue, une compétition internationale de sauvetage sportif. Alice Rulanzo, concourant dans la catégorie junior, s'est distinguée avec une 5e place au 100 combinés et une 8e place au 200 obstacles. Dans la catégorie senior, Damien Mur-Castera a remporté une médaille de bronze sur le 200 obstacles. La grande vedette de cette compétition a été Lily Simeon Knabel. Elle a dominé ses épreuves, décrochant l'or sur le 100 mannequin palme et le 100 bouée tube. Après avoir eu l'honneur de porter la flamme olympique, elle aura l'occasion de représenter son pays et sa ville de Tarbes au prochain championnat du monde en Australie. Ce sera en août 2024.
Nouveau départ sous de meilleurs auspices pour le Tour féminin des Pyrénées.
La 3e édition du Tour international féminin des Pyrénées a eu lieu ce week-end. Une course de 3 étapes et 346 km à travers les Pyrénées. Une course dans laquelle 15 équipes sont engagées au départ de Goudon dans les Hautes-Pyrénées pour une arrivée à Lourdes pour cette seule première étape. Une nouvelle édition qui compte bien effacer les couacs de l'année dernière. La course avait été annulée au matin de la 3e étape. Des coureuses avaient dénoncé des problèmes de sécurité du peloton. Une épreuve reconnue et soutenue par la Fédération de cyclisme qui a dû cette année faire face à la concurrence avec le Tour de Suisse et les JO.
La Miavoise Marine Cabirou, deuxième lors de la manche de Coupe du Monde de VTT en descente en Italie ce samedi.
Une semaine après sa 5e place à Leongang en Autriche, la Milavoise Karine Cabirou a pris la 2e place de la finale de l'épreuve de Val di Sole en Italie, 4e manche de la Coupe du Monde de VTT descente. La Véronaise du team Scott Dunhill Factory a seulement été battue par la Britannique Tane Seagrave de 3 dixièmes au final. Au général de la Coupe du Monde, Marine Cabirou reste 3e.
Le vélo accessible pour tous, la preuve, des cyclistes amateurs se sont lancés sur les routes du Tour de France.
Après le contre-la-montre de Rocamadour il y a 2 ans, le Tour de France revient dans le Lot cet été avec une étape le 11 juillet prochain. Une partie de cet itinéraire a été ouverte aux cyclotouristes ce samedi 16 juin. Les amateurs de vélo ont pu se prendre pour les stars du cyclisme professionnel sur 40 km. La grande boucle cycliste passera par ce parcours lors de l'étape qui reliera Aurillac à Villeneuve-sur-Lot. Passage sur ces routes des professionnels, ce sera le 11 juillet.
C'était le dernier flash de Corinne Saint-Félix dans l'Esprit Sport. Voilà, c'est les vacances s'approchent, donc on lui a laissé une semaine d'avance. Tout de suite, les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Mais c'est pas les vacances pour tout le monde. Quelqu'un qui a mis du temps pour retrouver le chemin de la radio. Corentin, on vous écoute pour vos retours dans les tops et les flops.
Alors, pour commencer, j'avais envie de parler un petit peu de l'Euro 2024, puisque c'est ce qui va rythmer nos journées jusqu'au 14 juillet. On vous voit d'ailleurs, les personnes qui sont en télétravail devant la télé.
À 15h.
Donc, au-delà des matchs qui sont plutôt d'un bon niveau jusqu'ici, j'aimerais surtout mettre l'accent sur les supporters. Et oui, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de débordement. Et puis surtout, on a de beaux moments de convivialité qui sont filmés par les supporters par-ci, par-là. Je pense notamment aux Écossais à leur arrivée en Allemagne pour le match d'ouverture, aux Néerlandais aussi, et puis même à l'avant-match entre l'Albanie et l'Italie, où des supporters albanais ont fait preuve d'un peu d'humour en cassant des spaghettis devant les supporters italiens.
Ça, c'est très
drôle,
on a vu
une scène un petit peu similaire avec des supporters autrichiens qui coupaient une baguette devant des supporters français. Donc voilà, une belle ambiance, et ces moments conviviaux rappellent surtout qu'il faudrait arrêter la connerie d'organiser des mondiaux de foot en plein désert où les supporters ne peuvent pas se déplacer. Fini le foot jet set, laissez-nous profiter de ce sport populaire tranquille. Et puis en flop, petite inquiétude pour Renaud Lavillenie puisqu'il n'a pas encore réussi à faire les minima pour se qualifier au JO de Paris 2024 en juillet prochain. Notre perchiste français n'a pas fait donc les 5,82 m qui étaient demandés. Il a même échoué à 5,60. Alors après, il revient d'une petite blessure. Ça fait partie de son parcours de remise en forme. On lui souhaite d'y arriver. Il aura une dernière opportunité lors du meeting de Grenoble. Enfin, une nouvelle opportunité au meeting de Grenoble où sa participation reste quand même un petit peu incertaine. En tout cas, voilà, on lui souhaite d'atteindre cette barre et on se donne rendez-vous, Renaud, à Paris, en juillet.
Alors, il y a eu quelques petits débordements Serbie-Angleterre. C'était dimanche, mais voilà. Il y a eu aussi un risque d'attaque qui a été avorté par la police allemande, donc, mais pour l'instant, voilà.
Qui apparemment n'avait pas de lien avec l'euro. Le mec venait pas particulièrement parce que c'était l'euro. Il y a une personne qui était venue avec une pioche et un engin incendiaire à proximité d'un stade.
Et après, voilà. Il a dit
le hasard du calendrier.
Il y a quelqu'un qui est allé dans un groupe de supporters avec une hache. Et la police a pas vraiment tergiversé. C'est-à-dire qu'ils lui ont pas d'abord demandé l'heure. Et puis ça s'est pas bien terminé pour la personne qui a eu d'accord. Des mauvaises intentions, on va dire.
Okay.
Voilà, c'est dit avec les formes. Merci beaucoup, Corentin. Voilà, c'est pas grave, on l'a déjà perdu, c'est le décalage. C'est pas grave.
Non, mais je sais pas, je pensais que vous alliez enchaîner là. Je laisse l'espace libre pour le chef d'orchestre.
C'est le retour, justement, en parlant d'orchestre, Coraline.
Oui, mon top, ce sera pour l'Access Match Top 14. Ce dimanche se déroulait le match d'accession pour le Top 14. Le perdant de la finale de Pro D2 Grenoble recevait le 13e de Top 14 Montpellier. Quel match, une domination dans un premier temps de nos voisins lointains d'Occitanie. Grenoble joue collectif et parvient à mener à la mi-temps. Un gros défi physique avec de forts impacts et des courses à tout va. Les Grenoblois étaient nombreux à subir des crampes et rester à capot ouvert dans les derniers instants. Signe d'un match à haute intensité. Montpellier revient au score en toute fin de match, 18 à 20 en faveur de Montpellier et qui conserve donc sa place en top 14. Et mon flop, ce sera pour la mairie de Toulouse. Corentin parlait de l'Euro. Un événement sportif qui a lieu tous les 4 ans sur le sport le plus populaire en France. Je m'attends à ce que les villes mettent des choses en place pour créer une ferveur autour de leur nation. Un écran géant, par exemple, sur la Prairie des filtres, pardon, tout au long de la compétition aurait été le bienvenu. Pour l'instant, la mairie ne prévoit rien. J'ose espérer que si la France se qualifie pour les phases finales, les élus créeront une fan zone à ce moment-là.
C'est vrai qu'on les a beaucoup entendus pour la Coupe du Monde au Qatar. Là, maintenant que l'Euro est à côté.
Plus rien.
Peut-être parce qu'il y a le Rio Loco en ce moment sur la Prairie des filtres.
Mais il est fini, le Rio Loco, non, me semble-t-il.
Oui, il a fini dimanche, mais du coup, l'Euro, ça reste un peu.
Oui, bon, ils sont réactifs à la mairie, ça va arriver.
Ah, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu occupés par les futures législatives aussi, non ?
Peut-être aussi, mais ouais, on ne sait jamais, peut-être. Ça peut peut-être jouer, hein, en ce moment, en politique, apparemment, tout est bon à prendre. Alors,
il y a des villes, en tout cas, en France, qui ont installé. Alors, moins grandes que Toulouse.
Niveau sécurité aussi, tout ça, ça doit prendre beaucoup de temps, assurance.
En effet, on est d'accord. Mais après, il y a des villes qui l'ont fait.
On ira dans les bars comme tout le monde, ce sera vachement plus convivial, non ?
Peut-être que oui, c'est enfin, le lobby des bars.
Peut-être. Waouh, le lobby des barman.
Je pense
barman
que la sécurité est beaucoup plus simple à mettre en place pour une fan zone avec des contrôles à l'entrée que dans des bars.
Ouais.
On verra voilà. Pour la suite.
Il
n'y
a
de
pas
la...
de contrôle à l'entrée.
On sent qu'il y a un petit coup de gueule à la part de Coraline de ne pas aller voir le match ce soir à la Prairie des filtres.
Exactement. Je suis chafouin.
De chafouin, voilà, au bout du bout. Merci Coraline. Erwan.
Alors moi pour mon top, je vais partir sur les phases finales du rugby, mais pas du rugby professionnel, du rugby amateur. Il y avait les phases finales de fédéral qui avaient lieu ce week-end, et notamment la finale de fédéral 1, donc entre Genève et Mauléon. Voilà, le Servette exactement. Donc si ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est parce que
je vois Anne-Françoise.
Non, Mauléon, je vois très bien. Par contre, Genève.
Servette de Genève, ouais.
Oui, c'est justement parce que le Servette, qui est donc un club foot suisse. Une des plus grandes institutions du foot suisse a une section rugby depuis extrêmement longtemps, depuis plus de 100 ans. Et un jour, ils se sont dit, pour développer le rugby suisse, est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller dans le championnat français ? Ils ont fait la demande auprès de la FFR. La FFR leur a dit, ok, mais dans ce cas-là, vous démarrez au plus bas de l'échelon possible et vous devez recréer un club. Donc, la partie rugby du club qui existait depuis plus de 100 ans a disparu et elle a été recréée à travers un club français lié à la FFR. Ils sont montés pour l'instant quasiment tous les ans, sauf l'année dernière. où ils ont échoué aux portes de la montée, donc en National 2. Cette fois, il y a deux semaines, ils ont acquis la montée, donc en National 2, parce que ce sont tous les quarts de finalistes qui montent en National 2, quarts de finale de Fédéral 1. Et là, ce week-end, ils ont gagné donc, contre Mauléon en finale, donc sur le score de 9-28. Et c'est une belle histoire voilà, pour ce club qui se donne les moyens d'essayer de représenter le rugby suisse et d'essayer de lui donner des perspectives d'avenir, avec notamment, par exemple, la Suisse qui, l'année prochaine, sera dans le 6 Nations B pour la première fois de son histoire.
Et comme l'a dit Corentin, pas de fête à Mauléon cette année. Voilà.
Mais,
on cite les auteurs.
Bien évidemment, il faut toujours citer. Et voilà, je voulais aussi signaler Lourdes en Fédéral 2 qui a réussi à renverser le match contre Gujan-Mestras en gagnant à la dernière minute. C'était un match qui avait une petite saveur parce que Gujan-Mestras, c'était la première fois qu'ils allaient en phase finale de Fédéral 2. Ils espéraient. Ils ont acquis du coup leur montée en Fédéral 1 et c'est quelque chose d'historique pour le club. De la même manière, Lourdes, du coup, aussi monte en Fédéral 1 et en plus continue son ascension vers la finale. Et ça faisait très longtemps que Lourdes n'avait pas vécu une fin de saison aussi intéressante.
On a reçu le président de Lourdes cette année qui nous avait dit en début de saison, attention, pas trop d'affolement, la montée on vise pas tout de suite.
Comme quoi.
Passez dans l'esprit sport, vous allez réussir tout ce que vous allez faire.
Et Lourdes, et Lourdes en demi-finale, ils vont rencontrer Grenade-sur-Garonne.
Ah, et ben alors là, ça va être,
ouais,
ça va être suspense.
Et du coup, pour le jeu, je vais finir très rapidement pour mon top qui commence à s'éterniser. Mais en gros, il y a Saverdin. Après, en Fédéral 3, je suis monté à chaque fois d'un échelon. Il y a Saverdin en Fédéral 3 qui a fait un match absolument sensationnel. En fait, à la 68e minute, ils perdaient 33-25. Est-ce que vous êtes capable de savoir combien ils ont gagné? Parce qu'ils ont gagné, sinon je ne vous le dirai pas.
33-25.
L'adversaire avait 33. Donc l'adversaire, c'était Saint-Jean-de-Bournay qui avait 33. Saverdin avait 25.
35-33.
47-33.
55-33. Non, c'était Françoise qui était plus proche. 33-45. Ils ont marqué 4 essais en 12 minutes pour gagner. Et ils ont, ils ont une fin de match incroyable dans le Money Time. Et ils se sont donc qualifiés pour les demi-finales de Fédéral 3. Et voilà, c'est un scénario absolument, absolument fou qui fait rêver dans le petit rugby.
C'est pour ça que les phases finales en rugby, malgré le fait que ça soit totalement injuste, c'est quand même beau. Voilà, c'est
injuste par rapport à la saison régulière. Ouais.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un monde où le Stade Toulousain peut ne pas être champion de France cette année. Bon, ça c'est autre chose. Merci beaucoup pour ce très joli top.
Oui. Et pour le flop. Pour le flop, j'aurais pu citer peut-être le. Il me semble que ça vient de tomber le fait que Colazo et Cheto et l'habit du staff de Montpellier ne sont pas conservés pour la saison prochaine. Étonnamment. Je voulais plutôt parler de Toulon, qui a donc joué son barrage, je veux dire son quart de finale, pas du tout, on n'est pas en fédéral, qui a joué son barrage donc contre La Rochelle samedi dernier pour accéder aux demi-finales de Top 14. C'était la première fois depuis 6 ans que Toulon allait en phase finale. Et on sentait très bien que Toulon avait les armes, on sentait très bien que Toulon avait les joueurs, mais alors Toulon n'avait pas de plan de jeu et c'était vraiment très triste. Alors on peut se dire, comme a dit Pierre Minoni, oui on a perdu la bataille de Hansol, du coup on n'a pas pu développer son jeu, mais c'est quelque chose qui s'est vu pendant une grosse partie du match. Mais quand à la fin, notamment pendant 4 minutes de 70e à 74e, vous évoluez avec deux joueurs de plus que La Rochelle qui avait deux cartons jaunes, que vous êtes dans une bonne dynamique,
oui,
que vous dominez clairement
droit,
la fin de match,
ils
et que
le faire,
votre demi d'ouverture Dan Bigard, qui a un nombre très élevé quand même de sélection internationale et qui est censé être un demi d'ouverture d'expérience, ne se dit jamais, tiens, il y a deux joueurs de moins de l'autre côté, et si on envoyait au large, au bout d'un moment, j'ai presque envie de parler de sabotage. Je comprends pas comment ils ont pu à ce point déjouer et ne pas s'imposer, sachant en plus la saison plutôt moyenne que La Rochelle faisait, même si La Rochelle a fait un super match.
Voilà, comme quoi, même avec les supporters avec eux, ils n'ont pas réussi à renverser tout ça. Merci beaucoup, Erwan. Julien.
Moi, justement, mon top était un peu en lien avec le flop d'Erwan, parce que du coup, moi, je voulais plutôt parler de la performance de La Rochelle. Alors, comme très justement l'a dit Erwan, c'est vrai que Toulon s'est un peu saboté, mais quand même, il faut souligner les efforts de La Rochelle qui ces derniers temps, était en grande difficulté. Qui, on rappelle qu'il s'est certes qualifié en 5e place, mais c'était incertain jusqu'au bout. Et puis, comme l'a très justement souligné Mignoni, La Rochelle a été écœurant au sol. Malgré deux infériorités numériques, ils ont rien lâché. Et surtout, on a senti des joueurs qui étaient un peu empruntés en fin de saison régulière, comme on peut dire, qui ont fait un super match, comme Astoy, qui est souvent décrié ces derniers temps, tout comme Aldrit aussi, qui était un peu en dedans depuis sa reprise post-Coupe du Monde. Donc, grande félicitations à eux. Et puis maintenant, place au Stade Toulousain. Ouais. Et là, ça va être sûrement notre paire de manches. D'autant que bah, du coup, les Toulousains sont quand même... ont eu beaucoup de repos comparé à La Rochelle, mais
une
bon après
préparation
c'est
au Portugal je crois en plus.
C'est ça, ouais.
C'est ça. Donc après bon, voilà exactement donc match de phase finale on peut s'attendre à tout.
Ce sera à suivre évidemment avec impatience.
Oui.
Ah bah oui. Bah c'est quand même le classico de ces 4 dernières années.
Ah oui, mais là La Rochelle cette année quand même c'est pas.
Ouais, c'est vrai. Ah mais peut-être qu'ils
on
vont essayer.
Rouen c'est pas une saison tip top quoi.
Non, par contre il va falloir qu'ils règlent le problème d'indiscipline qu'ils ont eu quand même dans.
Si c'est pareil contre le Stade, ils vont en prendre 40 et puis ça va être vite vu.
Et puis on oublie qu'il y aura sûrement pas Méafou pour le Stade Toulousain. Qui normalement a fini sa saison.
Une course contre la montre, c'est pas sûr pour la finale quand même.
Oui, c'est pour ça. C'est pas sûr pour la finale.
Vous projetez déjà en finale.
Mais pour la demi, normalement, il sera pas là. Mais pour la finale, il y a des doutes.
Le boulardico entre La Rochelle et le Stade Toulousain, c'est vraiment les deux équipes qui ont.
Il y a la finale, mais dans le stade.
Oui, c'est vrai.
Oui, en tribune. Ouais.
C'est joli, Vélodrome.
C'est vrai, c'est très bien. Et votre flop.
Et du coup, en flop, ben, donc, comme le parlait aussi très justement Corentin, jusque-là, on avait un euro plutôt qualitatif au niveau du jeu. Et, ben, mais après, sauf un match, celui d'hier soir, justement, l'Angleterre-Serbie. Donc l'Angleterre, qui fait partie de... C'est peut-être même le favori de base, et qui a été très décevant. Alors, ils ont été très bons dans les 15 premières minutes, où ils ont mis beaucoup d'intensité, ils ont bien pressé les Serbes. Mais après ça, rideau, on les a quasiment plus vus. Limite, ils mettaient le bus. Si les Serbes n'avaient pas un gros manque d'efficacité, ils auraient pu largement au moins décrocher un point du match nul, voire une victoire. Donc, faut dire que c'est très, très inquiétant. Et surtout, quand on voit le sélectionneur, ses choix, tous les joueurs qu'il a laissés au pays, si je puis dire, bah, c'est un peu inquiétant. Et justement, ce statut de favori est largement remis en question.
Après, il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné l'Euro qui avaient mal commencé leur compétition,
comme la
Coupe du Monde, d'ailleurs.
Ah, si on revient au Portugal d'il y a...
Là, il y a des grosses interrogations sur la composition, quand même.
C'est aussi, oui. Voilà.
Quand on voit Alexander-Arnold dans le milieu, c'est...
Il a l'air pas très sûr de son plan de jeu et... Et bon, là,
tant pis pour eux, j'ai envie de dire.
Après, ils ont quand même la victoire, donc on va dire qu'ils ont quand même un petit matelas de sécurité. Mais bon, on va dire que là,
l'essentiel est là.
Voilà, donc
la victoire, après,
pour les poules, c'est peut-être suffisant, mais en phase finale, va falloir être prêt. Quoi.
Voilà. Merci Bellegol.
Merci Bellegol.
Oui, ouais, encore lui qui sauve tout, comme d'habitude.
C'est vraiment trop fort ce joueur. Et je suis sûr, mon petit Domdi, qu'on va entendre parler en décembre.
Premier joueur de moins de 21 ans. Premier européen de moins de 21 ans à faire 3 tournois majeurs avant d'avoir 21 ans, tout simplement. C'est-à-dire, avant d'avoir 22 ans, excuse-moi, il a déjà fait l'Euro 2020, l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2022 et l'Euro 2021. Voilà, bah, c'est-à-dire que bon, il est presque au niveau du rythme qu'avait un Pelé à l'époque. Bon, sauf qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde alors que Pelé l'avait déjà gagné. Mais voilà,
ça sera à suivre et c'est sûr que ça va faire parler beaucoup ces prochaines années. Merci à tous pour cette sélection. On aurait pu mettre aussi en top le très joli maillot. Ah oui, François, je vous ai oublié.
Oui, désolé.
Bah allez-y. J'avais parlé du joli maillot Camille Corentin de l'équipe de France 98 avec le numéro 10. Voilà, on aurait pu mettre ça en flop, mais vous pouvez aller.
Mon flop, ou
bon, allez-y.
Ça se passe
non, je vous en prie.
D'accord, très bien. Mais je vais aller vite du coup, hein, parce que manifestement, j'ai pas beaucoup de temps. Donc en top, ce sera enfin la qualification de Kevin Mayer pour les JO en décathlon. Donc ça y est, enfin, Kevin a réussi à retrouver ses paillettes. Merci beaucoup. Après une journée, du coup, c'était au tournoi de Rome, si je ne me trompe pas. Il a fait une première journée pas ouf, mais grâce au saut à la perche, eh ben, voilà, ça y est, il a fait les minima. Et donc, il était hyper content. Ça, c'est chouette.
Ça, c'est une bonne nouvelle pour la France au JO.
C'est le Mayer.
C'est le... Elle est bien.
Elle est là, c'est elle déjà là. Pas mal.
Non, crédit Corentin.
Voilà, c'est bien parce qu'il n'assume pas ses blagues. C'est bien, Corentin, c'est bien. Profiter de la dernière.
C'est qui murmure à l'oreille du chef d'orchestre.
C'est ça.
Et comme flop, je vais m'écarter un tout petit peu du sport pour parler un tout petit peu politique. Comme flop, je voudrais parler en fait de la tenue des élections législatives exceptionnelles. Et je me demande en fait si ça ne va pas un tout petit peu perturber l'organisation des JO de Paris. Et si on ne passe pas un petit peu auprès des pays étrangers pour des guignols en fait. Voilà, donc je ne sais pas trop comment ça va faire. Je sais que à Paris, apparemment... c'est compliqué. Enfin, en tout cas, Anne Hidalgo, elle l'a dit assez gentiment, mais elle a dit que c'était un petit peu compliqué quand même maintenant d'organiser...
Il y a la commission d'enquête au bon maintien des Jeux Olympiques qui, du coup, n'existe plus, vu qu'il y a eu la dissolution. Parce que les commissions d'enquête sont faites avec
des députés. Comme ça. Comme ça, t'es tranquille.
Plus d'enquête.
Plus d'enquête, plus de problèmes.
Ouais, c'est ça. Bah, s'ils enquêtent, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a plus d'enquête.
pas de problème.
Voilà, ça rappelle les manières d'enquêter de certains pays à l'époque.
Oui, 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 même de certaines fédérations de sport à l'heure actuelle, ceci dit, au passage. Merci.
Oui, mais comme disaient les inconnus, mais ceci ne nous regarde pas.
C'est bien, voilà. Erwan, il peut passer de quelques stats très intéressantes, approximatives, à des références de la comédie française tout aussi excellente. Ouais, mais bon. Merci beaucoup, Erwan. Tout de suite, on retrouve le dernier face-à-face olympique de cette année.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, en face-à-face, nous recevons Sophie Raffi, membre de la commission mixité du CNOSF pour la Fédération française de hockey. Elle est aussi élue à la Fédération française de hockey et présidente déléguée du TUC et de la section hockey sur gazon. Bonjour. Alors, on va parler du hockey sur gazon. En commençant, les origines du hockey sur gazon, comment c'est arrivé jusqu'à chez nous ?
Oh, chez nous, ça fait quelques années que le hockey, alors il était plutôt en salle avant d'être sur gazon. Même dans les années 50, en fait, il y avait plusieurs clubs universitaires qui performaient sur Toulouse avec des équipes pouvant même aller jusqu'à 50 filles sur Toulouse en salle. Et bon, petit à petit, il y a eu une diminution de cet engouement vers ce sport, bien que au sein du TUC hockey, on a eu nos filles en 2014 qui étaient même au championnat élite en salle. Mais voilà, donc le but était de revenir vers le hockey sur gazon parce que c'est le sport de prédilection du hockey, même si certains sont fervents et veulent maintenir le hockey en salle, ce que je comprends. Mais voilà, au niveau du TUC, on voulait repartir vers le hockey sur gazon, et c'est l'obtention d'un terrain synthétique il y a maintenant 4-5 ans qui nous a permis de progresser, d'augmenter nos nombres de licenciés et de performer dans cette discipline.
Quand on parle de hockey sur gazon, c'est pas le hockey sur de l'herbe qui pousse dans le jardin, c'est du synthétique, pour un petit peu replacer tout ça. Quand on pense au hockey sur gazon, on pense aussi au hockey sur glace. Pour ceux qui ne voient pas du tout les différences, quelles sont-elles ces différences ? Peut-être la taille du terrain ?
Alors déjà, nous, le hockey sur gazon se joue à 11 contre 11 sur un petit terrain de foot avec des cages qui sont plutôt de la taille d'un terrain, des cages de hand, pour être un peu plus précis. Après, les crosses ne sont pas les mêmes. Nous, c'est des crosses, alors maintenant en graphite, peu importe la structure, ou en carbone, mais qui ont une tête beaucoup plus courte que celle du hockey sur glace. Ça se joue avec une balle qui a la consistance d'une balle de tennis avec l'intérieur qui peut être considéré comme une balle de golf. Donc, ce n'est pas un palais. Donc, voilà, déjà, ça, c'est les différences majeures. Et après, il n'y a que le gardien qui, nous, est équipé comme un gardien de hockey sur glace. Mais les autres joueurs ne portent que protège tibia et protège dents.
Pour éviter de prendre des coups de crosse, évidemment. Voilà. Ça semble assez accessible au niveau des équipements. Basket, tenue de sport, les protections et une crosse. Quelles sont les qualités peut-être pour commencer un jour le hockey sur gazon ?
Les qualités, je pense qu'il faut être quand même très physique parce qu'il y a quand même, il n'y a pas de hors-jeu contrairement au foot. Donc la balle est toujours en jeu, donc c'est un sport qui va assez vite, hein, mais qui demande de l'agilité parce que il y a aussi cette crosse. Hein, donc il faut être, il y a de la technicité, de la motricité et de l'endurance tout en étant rapide en même temps.
Vitesse, agilité, technique, c'est presque le sport parfait au final.
A priori, oui.
Et on n'est pas sur la glace, donc on n'a pas froid, on n'a pas...
Non.
Enfin, les joueurs...
On peut se mouiller parce que c'est en extérieur, comme tout autre sport d'équipe d'extérieur, mais bon, ça, c'est pas grave, ça.
Les épreuves de hockey, bon, il y a des championnats, on va se rapprocher un petit peu des JO, on va évidemment les voir cet été, on verra les chances de médailles après. Pour tout ce qui est des JO, comment ça se passe pour accéder, pour être qualifié pour les JO ? Est-ce qu'il faut faire un tournoi qualificatif ? Est-ce qu'il faut on participe simplement parce qu'on est en France ?
Alors non. Alors déjà, il faut être parmi les 12 premiers au niveau classement mondial pour pouvoir y participer, parce que c'est les 12 meilleurs qui participent. Sauf pour nos filles, on a eu une exception cette année dans la mesure où les Jeux de Paris se veulent en totale mixité. Il fallait qu'elles soient au minimum au rang de la 25e place pour pour pouvoir y participer, ce qu'elles ont été il y a de ça un an et demi maintenant. Mmh. Et du coup, mais même actuellement, elles sont même 20e et elles n'arrêtent pas de progresser. Donc ça montre que cet élan et cette volonté de la fédération d'impliquer notre équipe de filles, on y a mis plus de budget, bien sûr. On essaye de faire attention aussi à ce qu'il y ait un peu moins de différence entre nos deux collectifs hommes et femmes. On a encore du travail, on le sait. Mais en tout cas, voilà, on tend vers une amélioration de cette et une diminution des différences entre les deux collectifs. Mais voilà, c'est la première fois depuis l'existence des Jeux et du hockey dans les Jeux, c'est-à-dire en 1908, qu'on aura nos deux collectifs hommes et femmes qui vont participer à ces Jeux de Paris.
Est-ce qu'à terme, on peut voir une équipe mixte ?
C'est pas totalement le but actuellement au niveau de la Fédération internationale. On peut jouer très bien en équipe mixte. Alors, quand on fait, on a une autre discipline en gazon qui est le rugby, le hockey à 7. Et donc, du coup, il y a totalement des équipes mixtes à 7. Au niveau régional, on peut aussi jouer à 11 avec des filles dans les équipes masculines sans problème. Mais dès qu'on passe au niveau national, oui. Voilà, on préfère malgré tout ne pas qu'il y ait cette mixité de par la puissance aussi qui peut être parfois différente entre les hommes et les femmes, bien que cette différence peut s'amenuiser, j'en ai conscience.
Les épreuves de hockey sur gazon au JO, ça va être comme un tournoi avec des poules et des phases finales.
Il y a deux poules, et donc exactement comme un tournoi. Et donc il y a deux poules de 12 équipes hommes et de 12 équipes femmes. Et les matchs se jouent en carton de 15 minutes chaque carton.
Voilà, donc en plus, c'est pas plus long que... C'est pas énormément long. Donc vraiment, on a de quoi s'intéresser au hockey sur gazon. Les JO, on présume que vous attendez qu'il y ait une démonstration d'amour pour cette équipe de France qui va participer. Est-ce que vous pensez que les JO vont mettre en lumière le hockey sur gazon ? Est-ce que vous vous attendez à un intéressement grandissant des Français pour le hockey sur gazon ?
Alors, c'est ce qu'on espère, bien sûr, et que derrière...
Parce que ça a tout pour plaire, c'est visuellement beau,
derrière,
c'est
derrière, on
rapide,
a des retombées, c'est... et c'est un des sports les plus regardés au niveau mondial aussi. C'est le 3e sport le plus pratiqué au monde, et le 4e ou 5e sport le plus regardé lors de matchs et de compétitions. Donc, on a de quoi faire, et la route est... on a un gros potentiel en France pour pouvoir arriver à performer, à augmenter notre nombre de licenciés, mais on espère bien sûr que ces JO vont mettre en lumière notre sport, surtout dans le stade qui est mythique de Yves du Manoir, qui est le stade aussi des premiers Jeux de Paris en 1904.
Est-ce que vous avez un nombre de licenciés en France en tête, à peu près une fourchette?
Oui, on est à peu près à 11 500 licenciés, j'ai peut-être pas les derniers chiffres totalement en tête,
mais
c'est dans ces zones. Oui.
Plus de 10 000, donc
oui,
on espère...
Mais c'est pas suffisant.
Évidemment, on pense que pour avoir un niveau compétitif, pour pouvoir peut-être rivaliser avec des grandes nations, il faudra améliorer et avoir plus de licenciés. Justement, cette compétition avec les autres nations du hockey sur gazon, où est-ce qu'on se situe ?
Alors,
plutôt en haut du podium, plutôt au milieu.
Les garçons sont à la 12e place.
Les filles 20e, on a vu.
Les filles 20e. Et même les moins de 21 ont fini vice-champions du monde au mois de décembre dernier. Et ça fait plusieurs fois même qu'ils sont dans le carré final. On a même été dans le carré final aussi chez les garçons aussi dans les derniers championnats du monde, pas ceux-là, ceux-là d'avant. Donc voilà, la progression est là. Les résultats y sont. Maintenant, bon, on espère toujours le mieux pour nos deux collectifs.
Donc, les deux collectifs qui montent en pression, qui montent en qualité. Une chance de médaille, peut-être ? Est-ce qu'on se mouille ?
Je ne me mouillerai pas. Je laisserai les sportifs, en tout cas la DTN et les responsables sportifs se mouiller plus que moi. Bien sûr, ça serait la cerise sur le gâteau, ça c'est évident.
On espère une belle médaille d'or autour du cou des sportifs français. En tant que membre de la commission mixité du CNOSF, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui va être mis en place pour favoriser justement cette mixité pour la Fédération de hockey ?
Alors, pour la fédération de hockey, il y a ce parcours de formation des dirigeantes, parce que c'est important. Il y a le parcours qu'on appelle au niveau du CNOSF les 300 dirigeantes. Donc, ça fait la deuxième année que cette commission a lancé ce parcours à l'initiative du CNOSF, donc de faire ce parcours des 300 dirigeantes. Et on a quelques personnes qui y participent, parce qu'il faut un peu plus de mixité à tous les niveaux, que ce soit donc au niveau des joueuses, au niveau des arbitres, des officiels, au niveau des dirigeantes et au niveau des entraîneurs aussi. Parce que voilà.
Il y a un problème, il n'y a pas assez d'entraîneurs féminins au sein du hockey.
Jamais assez.
Jamais assez. Il en faudrait plus et, voilà. Puis on espère. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme qui a la tête de la sélection féminine ?
C'est un homme qui est à la sélection.
Preuve que.
Mais c'est une femme qui est présidente de la Fédération française de hockey.
Bien voilà, comme quoi la mixité arrive.
Première femme depuis la création de la fédération.
Historique.
Exactement.
qu'est-ce qu'on peut espérer donc après ces JO, après cette mise en lumière du hockey sur gazon pour la France ?
Qu'il y ait une retombée dans nos clubs pour que
locaux,
justement
en France et surtout à Toulouse, peut-être au TUC même.
Tout à fait, tout à fait. On est en progression constante depuis l'obtention du terrain. On est actuellement à 160 licenciés à peu près et on espère augmenter encore et passer cette barre des 200. Ça serait quelque chose de
d'important pour ceux qui veulent alors soit essayer, soit oui. Même tout simplement voir du hockey sur gazon. Comment on fait à Toulouse et en région pour pouvoir en voir ? Parce qu'on n'en voit pas à la télé, on n'en voit nulle part, sauf aller sur les terrains. Comment on fait pour aller voir simplement du hockey ?
Alors, le plus simple, c'est de suivre nos réseaux sociaux sur TUC Hockey sur Gazon pour pouvoir savoir quand est-ce qu'auront lieu nos prochains matchs. Là, on est en période d'hiver, donc ça se joue en salle. Et comme nous ne jouons pas en salle parce qu'on n'a pas accès à un gymnase. Donc, on va reprendre là, les premiers matchs le 3 mars. Ça va être le match des filles, des seniors dames qui vont jouer en National 1, qui jouent en National 1 puisqu'elles ont été championnes de France en National 2 l'année dernière. Donc, elles sont montées en National 1 et elles vont rencontrer l'équipe qui est actuellement première au classement de ce championnat. Donc, ça peut être intéressant de venir supporter, regarder, encourager nos seniors dames à 15h sur le terrain de hockey qui se situe 13 chemin de Limérac à Toulouse.
Voilà, tous les réseaux sociaux du TUC, évidemment, Facebook, Instagram, pour pouvoir suivre. Un site internet aussi ?
Oui, bien sûr, ce Toulouse Hockey.
Voilà. Vous pouvez retrouver...
Après, il y a plusieurs clubs dans la région, voilà, parce qu'il n'y a pas que nous, je vais aussi en citer plusieurs. Donc, il y a l'Île Jourdain aussi, qui est un club qui est aussi le club où il y a le nombre d'illustrations.
Le concurrent, peut-être.
Concurrent, dans certaines façons.
Le derby.
Et puis, oui, c'est souvent des derbies entre nous deux. Mais c'est aussi un club qui est créé depuis une dizaine d'années et qui progresse aussi avec une équipe senior, une équipe hommes, dames, des jeunes comme nous, avec une école de hockey exactement comme nous. Et après, on essaye d'arriver à essayer d'augmenter le nombre de clubs sur la région. Il n'y en a que 6 actuellement et ce n'est pas suffisant.
Ah, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui hésite, qui se dit que peut-être le hockey c'est trop dur, parce qu'on a parlé de vitesse, d'agilité, de technique, de physique. Ceux qui hésitent à venir, à faire ce premier pas pour venir vous voir ?
Déjà venir essayer. Nous, tous les samedis matins de 10h à midi sur le terrain de hockey, donc à l'adresse que je vous ai indiquée, s'il y a un cours loisir. Donc déjà, ce n'est pas de la compétition et il y a des personnes qui n'avaient jamais touché une crosse et qui maintenant sont passionnées et c'est vrai. Donc il y a eu des mamans aussi ou des papas, on leur a dit plutôt que d'attendre sur le bord du terrain pendant que vos enfants avaient cours de hockey et ils ont pris une crosse et petit à petit, il y a un groupe d'à peu près une vingtaine de personnes qui pratiquent cette activité tous les samedis matins.
Voilà, donc on espère que ces JO vont mettre en avant, vont mettre en lumière le hockey sur gazon qui en a besoin, tant en termes de licenciés qu'en termes de mixité. Merci beaucoup Sophie Raffi d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir fait parler de ce sport que je n'ai jamais pratiqué.
Vous n'avez jamais fait de hockey sur gazon ? Quand est-ce qu'on pourra peut-être faire un entretien en direct en faisant du hockey sur gazon ensemble ?
Vous venez, on essaiera sur le terrain, il n'y a pas de problème, vous serez
bien
accueillis.
Merci beaucoup.
Merci.
On va évidemment pas lancer Erwan sur ce type de sport. C'est avec la crosse, il risquerait de se faire mal. Voilà. Bon, je sais, Erwan, n'est-ce pas ?
Non, non, vous inquiétez pas.
Un petit peu,
je risque plus de faire mal à quelqu'un d'autre.
Oui, c'est ça. C'est, oui. On n'est peut-être pas tous assurés pour ça, pour ce cataclysme. On ne va pas envoyer Erwan sur tous les sports. En tout cas, dans quelques instants, on va parler de la liste de la tournée d'été de cette équipe de France. Ça arrive juste après Bon Entendeur et François Hardy.
Je n'ai pas les mots pour changer l'avenir, non pas les mots pour éviter le pire, seulement mes mains pour bâtir ou détruire. Je n'ai pas le nom de ceux qui font l'histoire, je n'ai gagné que de petites victoires sans prétention, sans marquer les mémoires. Un petit pas de plus, un petit peu d'espérance en plus, un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi. Tenir tes larmes, non pas les mots pour apaiser ton âme et pardonner, déposer les armes. Mais ensemble on a gravi le sommet des montagnes. On a construit des palais, les plus belles cathédrales, et on va vivre à en crever comme des bandits en cavale. Un petit pas de plus, un petit peu d'espérance en plus. Un petit peu d'espérance en plus, un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi, entendez-moi.
Merci beaucoup. C'était pas du tout François Hardy et Bon Entendeur, c'était un changement de dernière minute. Voilà, les plus mélomanes auront pu le remarquer. On va c'est du direct. Coraline, il faut juste baisser juste en bas. Voilà, baisser, et là, vous cliquez. Voilà, ça s'appelle un jingle, Coraline, bienvenue. Et c'est quoi, c'est Corentin ? C'est Erwan qui va un petit peu nous décrypter comme une sorte de chronique cette liste du 15 de France pour la tournée d'été.
Voilà, alors c'est pas tout à fait en fait une liste pour la tournée
c'est
d'été.
Un groupe ?
Non, c'est oui, enfin oui, c'est un
c'est
groupe,
un groupe
oui,
à
en
Gatier,
soi, oui.
Voilà.
Non, c'est surtout que c'est alors là c'est le premier groupe de préparation au stage en Argentine.
Wow.
Voilà. Donc il faut alors c'est très compliqué et d'ailleurs quand vous êtes peut-être rendu compte que quand il y avait l'annonce de la liste il y avait un petit préfixe avant l'habituel groupe d'équipe de France parce qu'en fait il y a une situation assez particulière, c'est que vous savez peut-être que la France donc devait jouer un match normalement à Bilbao contre une équipe de gala qui s'appelait World 15 avec oui. les autres meilleurs joueurs du monde qui devaient affronter l'équipe de France. Sauf qu'au final ce match a été annulé, du coup c'est un peu compliqué le calendrier, etc. Donc il va y avoir un match amical joué à Marcoussis contre la Roumanie.
Marcoussis ?
Oui, on ne sait même pas s'il va être diffusé.
Et on ne sait même pas s'il va être compté comme une sélection, c'est assez bizarre. Du coup, pour l'instant, il y a un groupe de 32 joueurs qui a été appelé pour préparer ça, sachant qu'il y aura 44 joueurs donc, qui partiront en Amérique du Sud pour jouer contre l'Argentine et contre l'Uruguay, parce qu'il y a aussi un match contre l'Uruguay. Et pour l'instant, ce groupe, bah, il est assez intéressant, mais il n'est pas extrêmement surprenant. Alors bien évidemment, comme toujours pour les groupes d'été, il y a quelques surprises. Notamment, on pourrait parler de Régis Montagne, qui joue à Grenoble. Mais en soi, il est très cohérent. Et notamment au niveau des arrières, il y a des joueurs au final qu'on a assez souvent vus avec, le groupe de l'équipe de France. On pourrait parler de Carbonel, même de Berdeux, qui s'est souvent entraîné avec eux, de Melvin Jaminet, bien sûr, encore de Baptiste Serin, de Baptiste, Baptiste Couillou. Voilà.
Ils ont pris tous les Baptistes.
Ils ont pris tous les Baptistes de France, il en reste plus un seul. Désolé si vous appelez Baptiste, vous allez en Argentine tout à l'heure. voilà, donc c'est un groupe qui est assez intéressant, qui est très pertinent au niveau de la ligne arrière, qui est un peu plus faible au niveau du pack d'avant, en tout cas qui a, pas forcément faible, mais qui a un peu moins de certitude, parce qu'on va pas dire faible, on sait, à chaque fois on a été surpris, notamment en 2016 quand ils étaient allés en Argentine, tournée qui avait permis de découvrir Serin en bleu notamment, ou même quand ils étaient allés en Australie en 2021 de mémoire. Voilà, il y a toujours eu des petites surprises sur ces tournées post-Coupe du Monde qui sont toujours un peu particulières, qu'on va en savoir un peu spéciales. Et là, on peut notamment souligner le fait d'avoir appelé Teddy Bobigny qui fait une excellente saison du côté de Toulon, Mathis Perchaud qui est sur deux excellentes saisons.
Est-ce qu'on va retrouver dans cette liste les ovnis que nous vendait Fabien Galthié il y a quelques temps?
Il y en aura peut-être. Alors, niveau ovnis sur la ligne arrière, on connaît la plupart, ou alors ce sont des joueurs qui sont vraiment très jeunes et je pense qu'ils n'ont pas forcément beaucoup volonté à jouer. On peut penser à Darry Carrère par exemple, ou à Baptiste Jauneau, qui vont peut-être avoir quelques minutes, plus contre l'Uruguay d'ailleurs, mais je pense que voilà, il y aura pas, on va dire, pas suffisamment de matchs ou d'occasions de bien se montrer, et il y a quand même des cadres qui sont semblent un peu prédestinés à jouer, même si on peut
même pour ce match test, hein.
Ouais, mais par contre, il y a quelques joueurs au niveau des ailiers, notamment, je pense, où on peut être surpris, notamment de Nathanaël Huleux à Castres, qui a fait une excellente saison. Et ça, c'est pour Coraline, c'est Théo Atisogbe qui a fait une excellente saison du côté de Pau aussi. D'ailleurs, on peut noter que Samuel Ezeala n'a pas été appelé, par exemple, aussi, alors qu'on sait que même s'il est espagnol, il a souvent fait des appels du pied à l'équipe de France. Donc voilà, c'est une liste plutôt intéressante. Très compétitive au niveau des lignes arrière, un peu moins au niveau du pack, mais peut y avoir quelques surprises. Et de toute façon, il y a une dizaine de joueurs à peu près qui doivent venir gonfler ce compte d'ici une semaine.
Le match à Marcoussis contre la Roumanie, est-ce qu'on a une date?
Attendez, il me semble que c'est le...
Question de dernière minute.
Tac, tac, tac,
période,
je l'ai plus. Je l'ai plus.
Et la tournée d'été en Argentine et en Uruguay?
Du 6 au 13 juillet, me semble.
Très bien. Alors, voilà,
je crois que de mémoire, ça va me revenir. Je crois que c'est le 24 juin le match contre la Roumanie. 22.
Le 24, c'est le match. Voilà, c'est ça. Le 22, le match face à la Roumanie, pas diffusé du coup. Enfin, on n'est pas sûr.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Voilà, c'est comme l'Uruguay sera diffusé sur l'équipe. Si vous n'avez pas Canal, vous pourrez regarder le match France-Uruguay sur l'équipe.
Le canal 21 de la TNT.
Voilà, la première fois qu'il y aura un match de l'équipe de France senior qui sera diffusé sur l'équipe.
Très bien, voilà. Un match tout public, donc ça sera avec plaisir qu'on regardera ça. Merci beaucoup à Erwan pour nous avoir décrypté ligne par ligne cette équipe et ses surprises. Tout de suite, on débat. Et du coup, en débat, ça ne vous a peut-être pas échappé. Si ça vous a échappé, bonjour, bienvenue. C'est l'Euro de
bonjour.
Foot. Voilà, c'est l'Euro de foot, ça y est, ça a commencé. Les Bleus vont jouer ce soir face à l'Autriche. Il y a eu déjà beaucoup de gros résultats. Espagne-Croatie, l'Espagne a étrié la Croatie. L'Allemagne a bien commencé en gagnant 5-1 face à l'Écosse. L'Angleterre a gagné, on l'a vu. Avec Julien, l'Italie aussi s'en est sortie. Du coup, toutes les grosses équipes sont là, pas de faux pas. Est-ce que les Bleus sont bien partis? Est-ce qu'ils sont toujours favoris pour remporter cet Euro? Coraline et Anne-Françoise, en tant que spectatrice de foot lors des Euros...
En tant que non-spécialiste.
Et en tant que spécialiste par rapport aux Euros, à l'Euro 2021 du coup, et 2016, et après les Coupes du Monde, est-ce que vous pensez que la France peut la gagner, comme ça? Très bien, merci Coraline. Au moins c'est clair et c'est net. Au moins on peut pas.
Non, mais je pense, mais oui, quand même. Non, mais que
avec l'équipe.
Oui, ça leur portait, ouais.
Oui. Bon,
pour vous, on peut gagner.
On peut gagner.
C'est quoi le minimum syndical pour les amateurs de foot qui regardent sans vraiment suivre?
Demi.
Ouais, demi, c'est bien, ouais.
Demi, c'est le minimum, je pense. Si on n'atteint pas les demi, je pense que ça sera
un euro raté.
Ouais, je suis pas sûr de m'y intéresser avant la demi, en fait, mais.
Ah, c'est ça aussi le souci, c'est ouais. Le fait qu'il y ait beaucoup de matchs qui soient diffusés sur une chaîne privée, sur Beansport, pas une chaîne publique, donc c'est beaucoup plus compliqué de s'intéresser, de s'y mettre dedans. Puis en plus de ça, si les Français passent pas les huitièmes, ça risque d'être un petit peu un flop pour ceux qui suivent pas tout au long de l'année le foot. Après, je me tourne vers Corentin, Erwan et Julien qui, sauf erreur, vous suivez un petit peu plus le foot.
Oui,
un petit peu.
Un petit peu. Corentin aussi regarde un petit peu le foot. Pour vous, est-ce que les Bleus sont toujours favoris pour remporter l'Euro?
Parmi les favoris.
Parmi les favoris.
Non, mais c'était ma réponse.
Ils très sont bien.
Parmi les favoris.
Toujours parmi les
favoris.
C'est
pas pour vous reprendre, je ne permettrai pas.
Il n'y a pas de souci. Toujours parmi les favoris. Il n'y a pas de.
Parmi les favoris.
On
ne
sent
oui,
pas la Suisse ou l'Italie nous mettre des bâtons dans les roues en 8e. Alors, je ne sais pas si c'est
possible. L'Italie, si, possiblement. On est parmi les favoris. On n'est pas le favori principal. Je pense que si on faisait une pyramide, on ne serait pas tout en haut. Mais en tout cas, on aura un bel horizon.
Julien n'est pas d'accord.
Non, si. Pour être honnête, il y a 4 principaux favoris. Bon, ça fait beaucoup, mais je pense
que... demi-finale, du coup.
Non, mais c'est ce qui paraît le plus cohérent à l'heure actuelle. Après, c'est pas une vérité absolue. Hein, c'est genre... ben, justement, comme on l'a vu avec l'Angleterre, qui, je pense, de base, était peut-être sur le papier la meilleure équipe. Mais on peut voir qu'on peut avoir 11 stars sur le terrain et avoir un collectif qui est un peu défaillant. Mais sinon, oui, pour en venir aux 4, c'est comme à peu près tout le monde, c'est France... Allemagne, Portugal et Angleterre.
Pas l'Espagne.
Là justement, si on prend avant la compétition, parce que là après c'est sûr que la France, on n'a pas joué un seul match, donc un peu compliqué de savoir où on va. Mais si on prend avant le début du tournoi, la France fait clairement
partie. L'Allemagne a joué que contre l'Écosse, d'où le score assez affolant.
L'Écosse qui avait battu l'Espagne justement.
Oui voilà.
Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de se baser, mais sinon, oui, la France fait largement partie des favoris. Et même, on l'a vu ces dernières années, justement, où ça coinçait un peu plus pendant les préparations. Et on voit que cette équipe, dans les grands tournois, arrive à se surpasser et à faire des bonnes performances, comme la dernière fois en Coupe du Monde. On va pas prendre l'Euro dernier en exemple, parce que là, c'est un peu...
C'est un petit peu l'accident de parcours, pourtant.
Un très, très gros accident, là. Une très grosse sortie de route, ouais. On peut dire. Mais sinon la France, on espère, je pense que ce soir, ce match sera assez déterminant pour savoir où est-ce qu'on peut voir cette équipe, si elle peut aller au bout ou non.
Parce que ça
va être compliqué, parce que le match contre l'Autriche, premier, si on fait un faux pas, après je sais plus.
Pays-Bas-Pologne.
Ouais, donc après Pays-Bas, ça va être, c'est obligé de bien commencer, c'est ça. Donc ce match contre l'Autriche va être très très important.
Décisif déjà.
C'est ça la
beauté de l'Euro, c'est que c'est dès le premier match ça compte.
Prendre les Pays-Bas juste après, c'est là où justement ça peut.
Il y a pas de match en bois.
Renverser la chose. Ouais.
Puisqu'on a un plutôt bel Euro en plus qui débute, les Belges qui eux par contre n'y arrivent pas. 2 buts annulés face à la Slovaquie. Voilà.
Ah, j'ai vu qu'ils avaient égalisé par Lukaku mais il était refusé.
Les Belges eux n'y arrivent pas. Bon, la tradition belge. Et vous Corentin, comment vous voyez l'équipe de France pendant cet Euro? Est-ce que vous la voyez soulever le trophée? Dont j'ai plus le nom tout de suite.
j'ai pas le nom non plus, mais je vais rejoindre quand même l'avis de tout le monde de ce côté-là. Après, pour moi, il y a 3-4 favoris. Je pense que les favoris sont tous dans le même panier. France, Angleterre, Espagne et Allemagne. L'Allemagne qui fait surtout partie des favoris parce qu'ils seront portés par leur public et parce que là, ils ont retrouvé un petit peu des couleurs. Maintenant, cet euro, il a l'air dense, mais il faut rappeler aussi que c'est un euro où on peut sortir avec une troisième place, avec 3-4 points et arriver quand même à faire un beau parcours. Rappelons-nous de ce qu'a fait le Portugal en 2016, ils ont terminé dans les meilleurs troisièmes. Ils n'ont pas gagné un seul match dans le temps régulier, réglementaire, et ils ont quand même réussi à gagner l'euro. Donc en soi, on peut ne pas être favori. On peut être favori et galérer contre la Suisse, on va peut-être galérer contre la Serbie. Il y a des équipes qui proposent de bonnes choses pour l'instant, mais je pense que cette équipe de France, comme l'Angleterre, sur le papier, on a de super joueurs. On a un collectif qui, je l'espère, va bien tourner, mais je ne serai pas aussi catégorique si jamais ce soir, on tombe face à une équipe d'Autriche qui nous met des bâtons dans les roues. Moi, je vois par exemple une petite victoire 1-0, mais il y aura peut-être un match nul. Cette équipe d'Autriche, elle peut être très embêtante. C'est une équipe qui presse très bien, qui a une défense qui est assez bien en place et qui a récemment eu de très bons résultats. C'est quand même une seule défaite sur les 8 derniers matchs. C'est pas le cas de l'équipe de France en 2024. Donc voilà, il faudra prendre tous les adversaires les uns après les autres avec le plus d'humilité possible. Et puis moi, si on passe tous les tours en prolongation et qu'on gagne sur un but de Rapia, c'est pas grave. L'important, c'est de ramener la coupe à la maison.
On a beaucoup de personnes qui disent oui, le beau jeu, c'est bien, mais moi, je veux bien ne pas bien jouer, mais gagner.
Oui, c'est souvent ce qu'a fait
moi, les 1-0 à la fin. Oui, c'est pas grave. Mais je veux pas de suspense. Moi, je veux juste 1-0 et puis après, on bloque.
Il y a un peu plus d'incertitude. C'est que on a toujours eu des incertitudes sur les latéraux.
Oui, ça, c'est l'éternel problème.
Et là, maintenant, on a une grosse incertitude aussi au niveau de la défense centrale. C'est-à-dire que là, on risque d'aligner, de partir avec un Saliba titulaire qui a jamais été flamboyant en équipe de France, alors qu'il est absolument sensationnel avec Arsenal et même avant à l'OM quand il y était. Et on a des Upamecano qui fait peut-être la pire saison de sa carrière en club avec le Bayern Munich. Il y a Konaté qui se blesse très souvent et qui a du mal à reprendre du rythme. Donc voilà, il y a des grosses incertitudes en fait sur toute la ligne défensive. D'un point de vue défensif, Théo Hernandez fait le taf, enfin le travail offensivement. Ça, on le sait, on n'a aucun doute sur ça. Mais voilà, défensivement, on a un peu peur que ça soit la passoire. Et je pense que c'est aussi pour ça que Didier Deschamps a rappelé N'Golo Kanté. C'est peut-être pour mobiliser le joueur à la fin qui peut ramener beaucoup de volume, etc.
Voilà, un petit pronostic rapidement. Alors, c'est pas l'heure du pronostic, mais rapidement, Coraline.
Sur le match ou sur l'Euro?
Merci d'être là.
Sur le match ou sur l'Euro?
Sur le match.
Sur le match, 1-0, France.
Anne-Françoise.
2-1, France.
Alors, Erwan.
2-0, France.
0-0.
Waouh! Merci Julien. Et Corentin?
J'avais dit 1-0 tout à l'heure.
Très bien. Eh bien voilà, tout le monde voit la France sauf Julien. Mais justement, on verra ça ce soir, Julien. Ouais, ça manquera pas de
message. Ah, mais j'espère que je vais me tromper. Hein.
Bah, on espère tous. voilà, tout de suite, c'est l'heure du vrai pronostic. Et là, forcément, après avoir parlé foot, top départ, Corentin, vous avez 30 secondes pour le match Stade Toulousain-La Rochelle, vendredi à 21h.
Alors, je pense c'est que déjà les Toulousains auront
c'est pas grave, Coraline, c'est la dernière. Attendez, recommencez, oui, Coraline. Oui, non, elle s'est trompée. On va appuyer. Ah.
Il y a Sunday Bloody Sunday qui a commencé là. Pourquoi?
Bon, je démarre. Mais du coup, oui, je pense que les Toulousains auront bien profité de leur semaine de repos. Depuis 2018, il n'y a pas une finale qui s'est déroulée sans le premier et le deuxième. Donc, ça montre que le repos est important. Donc, je vois le Stade Toulousain passer. 15 points d'avance, ils feront la différence un peu à l'entame de match et surtout à la fin avec la fraîcheur et sûrement le banc. L'absence de Meafou sera peut-être pas préjudiciable. Mais voilà, victoire avec 15 points d'écart pour le Stade Toulousain.
Très bien, c'est noté. Tout ça sur une petite musique de 30 secondes au rythme de l'Euro. Voilà, c'est pour ça. C'est la nouveauté, on innove hein, cette dernière. Voilà, c'est comme ça. Ça vous a étonné, Coraline?
Ah, mais ça m'a totalement étonné. Moi,
justement,
je ne m'attendais pas à ce chrono-là.
Vous avez 30 secondes pour, au rythme des 30 secondes, nous donner votre pronostic sur Toulouse-La Rochelle.
Je m'y ferai pas. Bah écoutez, je vois une victoire de Toulouse. Toulouse qui a du coup pu faire tourner. On a vu des belles images de Toulouse au Portugal. Donc ils sont là, ils sont en vacances, ils préparent bien leur demi. Donc Toulouse est en forme, je pense, pour disputer cette demi-finale. Et La Rochelle, qui eux n'ont pas pu faire tourner parce qu'ils ont galéré à se qualifier pour les barrages. Et ils ont joué ce week-end.
Très bien, donc le résultat?
Et oui, le résultat.
Non, c'est beau de débriefer, mais il faut mettre le résultat à la fin, quoi.
Allez, 35 à 24.
Pour le Stade Toulousain.
Bien entendu.
Très bien. Anne-Françoise, 30 secondes sur un rythme de samba, allez-y.
Moi, je pense que La Rochelle, ils ont repris beaucoup de confiance là, sur le match qu'ils ont fait hier, donc c'est bien pour eux, mais je pense que ça leur suffira pas d'une part parce que voilà, il va y avoir de la fraîcheur côté Toulouse, que niveau confiance, je pense qu'ils sont pas mal aussi, les Toulousains. Moi, je vois 10-15 points d'écart pour Toulouse. Ouais.
Ah, très bien, c'est généreux. C'est...
Corentin dit 15.
Oui, Corentin.
Oui.
Mm-hmm. Oui, oh, ouais, non, mais moi, ça m'étonnerait pas. Après, La Rochelle, il y aura sans doute un gros score en fait.
Très bien. Erwan, même sentence, 30 secondes.
Oula, sentence, dans quoi je m'embarque. Je pense que Toulouse va effectivement aussi gagner le match parce que je pense que déjà La Rochelle est très content de la performance qu'ils ont produite en barrage. Mais Toulouse arrive sûr de ses forces, comme on les a rarement sentis autant sûrs de leurs forces. La Rochelle, je ne suis pas sûr qu'ils soient en mesure de répondre aux défis toulousains, même si Méafou va manquer. Méafou va beaucoup manquer. Donc voilà, je pense que La Rochelle va céder une victoire d'à peu près, je dirais, moins de 10 points, moi je dirais. De 7-8 points face au Stade Toulousain.
Et vous, Julien ?
Bah, pour moi, je vais rejoindre à peu près l'intégralité de mes collègues, justement. Parce que bah, voilà, Toulouse, justement, a surtout bah, cette fraîcheur en plus, le fait de ne pas avoir joué. Et surtout, si on se rappelle un petit peu, sur les matchs couperets, Toulouse a souvent a posé énormément de problèmes à La Rochelle, si on se souvient déjà la dernière finale. Si on se souvient aussi, par exemple, la finale de Coupe d'Europe en 2021. Donc c'est pour ça que moi aussi je vois une victoire de Toulouse de 10-15 points.
Très bien, eh bien merci beaucoup pour tous ces pronostics. On se retrouve donc.
De son histoire, La Rochelle n'a jamais gagné un match à élimination directe contre Toulouse.
Bah, voilà.
On termine sur
suffisait
ça.
Suffisait qu'il y ait Rouen,
merci
comme
beaucoup d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine pour la dernière de l'année. Vous allez voir, ce sera une séance de révision pour toute l'équipe. À la semaine prochaine.